Soignu. Cette semaine, Pierre Chassagneux rencontre Enki Bilal. Ce soir, Enki Bilal, des planches au plateau.
Bonsoir Enki Bilal.
Bonsoir.
Depuis vos débuts, vous n'avez eu de cesse de nourrir votre curiosité artistique en épousant différents supports, sans vous cantonner à une seule activité. Si vous êtes reconnu comme dessinateur et auteur de bande dessinée, vous avez aussi réalisé des affiches de cinéma, et notamment pour Alain Resnais et son film « Mon oncle d'Amérique ». Vous avez fait des illustrations littéraires, des pochettes de disques. Mais là où vous êtes aussi épanoui, c'est dans la mise en scène, au théâtre comme au cinéma. Le nom de famille de l'une de vos héroïnes, Jill, est Bioscope. Bioscope, qui en serbo-croate veut dire cinéma.
Oui, très juste. Bah, le cinéma, en fin de compte, fait partie de ma vie. Je dirais presque. Il est arrivé dans ma vie presque en même temps que le dessin. Hein, donc c'est vraiment. C'est une histoire de belgradoise. Je suis gamin à Belgrade. J'ai 5-6 ans. Je me souviens parfaitement que ma mère commence à. Ma sœur avait 2 ans de plus, a 2 ans de plus que moi. Nous emmène voir régulièrement des films. Alors des films pour enfants. Donc le socialisme avait ça de bon. Le communisme avait ça de bon. C'est qu'il y avait. Il y avait des programmes du cinéma pour enfants, pour des jeunes. Il y avait du théâtre. Beaucoup de théâtre pour enfants, là aussi. Donc, je suis nourri un peu de tout ça, en même temps que je découvre le fameux cheval dessiné par ma mère et que je commence à dessiner. Donc, le cinéma est là. Et cette idée de narration par des images, c'est sans doute quelque chose qui me marque dès cette enfance. Et alors, pendant toutes ces années, évidemment, jusqu'au bac, et après, lorsque je commence à travailler, lorsque j'entre à pilote, avec ce concours, bah, le cinéma continue de m'accompagner. Moi, je vais au ciné-club de mon lycée, et puis à 16, 17 ans, je sors avec mes potes, on va à Paris, de la banlieue, on était tous de banlieue, on va à Paris, Saint-Lazare, et là, on va dans les cinémas, on va voir des films, on découvre Fellini, Kubrick, Tarkovsky, enfin bon, voilà, je commence à me faire mon casting de cinéaste, et donc ça c'est, et en fin de compte à ce moment-là je considère que la bande dessinée c'est ma façon de faire du cinéma par le dessin que j'aime, par l'écriture que j'aime, etc. En me disant en même temps le cinéma on peut pas en faire, c'est quelque chose qui demande des études techniques. Donc j'avais vraiment cette idée là que voilà, j'avais pas fait les études, j'avais pas fait le cursus qu'il fallait pour faire un film. Et c'est beaucoup plus tard que, alors que j'avais une idée de film à sketch avec des copains dessinateurs. Donc moi j'avais embarqué, il devait y avoir Mobius, Tardy, Druyer, enfin du beau monde, hein. Et il y avait un producteur qui était intéressé. Alors donc on se voit plusieurs fois. J'essaie de les motiver, mes camarades, en disant voilà, chacun va faire un 12 minutes, voilà, et puis on va faire sur un thème, on va commencer à discuter, etc. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que je suis un peu le seul à gamberger là-dessus. Et puis finalement, bon, ça donne rien, sauf que un agent demande à me rencontrer, comme ça, me dit, voilà, je suis votre travail, je trouve que ça devrait pouvoir faire des beaux films, les Phalanges de l'Ordre Noir, tout ça, Partie de chasse, enfin. Et je lui dis, bah écoutez, non, moi j'ai un projet de court-métrage, mais bon, il me dit, écoutez, non, je vais vous présenter un producteur. Et il organise un dîner, et je me présente Maurice Bernard, qui est le producteur de Thérèse, de film césarisé, de Nocturne Indien, un vrai producteur comme on n'en fait plus. Et lui me dit, bah le court métrage moi ça m'intéresse pas, ça va me faire perdre de l'argent et personne ne le verra. Moi je suis prêt à vous me lancer avec vous sur une idée de long métrage. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. Donc en me disant, bon bah voilà, je vais apprendre sur le tas. Et effectivement on apprend sur le tas assez confortablement, c'est assez dur, mais, et donc voilà, c'est comme ça que le cinéma, qui était en fin de compte une passion parallèle à la bande dessinée, arrive dans, et du coup c'est le dessin, c'est mon existence en tant qu'artiste de l'édition, de la bande dessinée, du papier imprimé, écrit, dessiné, que je commence à faire ces déplacements transversaux. Alors le cinéma, on est un, on parlait de théâtre, de chorégraphie, de ballet. Angelin Preljokaj, très grand chorégraphe, en plus lui-même originaire des Balkans comme moi, m'appelle en me disant, voilà, j'aimerais qu'on travaille ensemble, j'ai un super projet, j'aimerais qu'on fasse Roméo et Juliette de Prokofiev ensemble. Bon, bah, ça se refuse pas. Et c'est comme ça, c'est en fin de compte, c'est mon travail, mon univers graphique qui crée, qui ouvre ses portes, et c'est jamais moi qui vais frapper à la porte, même le cinéma. J'ai pas frappé, on est venu me chercher, et c'est donc voilà, c'est après faut être juste faut être à la fois vigilant et savoir choisir, savoir dire oui ou non.
Alors avant d'entrer dans la réalisation proprement dite, votre signature dans le 7e art va prendre un tournant particulier lorsque vous allez participer directement à The Keep, un film de Michael Mann, La Forteresse Noire en français.
Alors Michael Mann d'abord, c'est un très grand réalisateur. Alors il a fait des séries, c'est un producteur aussi, il a fait Miami Vice, etc. Et puis il a réalisé Le Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis. Il a réalisé des films très très forts, très puissants.
Collatéral,
magnifique, évidemment, film. Il a fait un film sur le tabac, l'industrie du tabac, avec Russell Crowe, dont j'ai oublié le titre. Mais bon, en tout cas, c'est un vrai, vrai, vrai cinéaste. Et alors, il m'appelle un jour, donc moi je connaissais de nom, il m'appelle, il était en train de tourner au Pays de Galles, un film qui s'appelait The Keep, donc La Forteresse Noire. Et c'est une espèce de métaphore sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Carpates, alors où il mêle à la fois le mythe de Dracula et le nazisme. Bon, et un film assez ambitieux, et il n'arrivait pas à être satisfait par la créature qu'à un moment donné les nazis réveillent malgré eux dans la montagne, dans un village en tout cas. Et donc voilà, le soir même, je me retrouve dans un avion privé à aller au Pays de Galles en pleine nuit. Et puis voilà, pendant passer 3 jours, ensuite dans des studios de Shepperton à Londres pour dessiner. Voilà, c'est comme ça que je lui ai fait ça. Alors ça, ce sont des piges un peu presque, mais qui sont passionnantes parce que j'ai gardé un très bon rapport avec ce réalisateur. Et le film a de réelles qualités, mais il a été massacré littéralement par la production, qu'il le trouvait trop ambitieux. C'est des choses que je connais, moi. Trop ambitieux, trop complexe, pas assez formaté, etc. Toutes ces choses que je combats, moi, y compris dans la bande dessinée. Bah, Michael Mann était confronté à ça au moment de ce film. Et donc, il est frustré, il en sort une version un peu insuffisante, quoi.
Puis vous allez aussi travailler avec Jean-Jacques Hano.
Alors Jean-Jacques Hano, oui, absolument, mais c'était un travail en amont, avant même le tournage. C'était très malin, Jean-Jacques. Il voulait communiquer aussi sur son projet. Donc il a cette idée formidable. Il dit, je vais demander à des dessinateurs, des artistes que j'admire. Donc il y avait Nicolet, il y avait Druyer, il y avait moi, il y en était quelques-uns comme ça. Et je vais demander à chacun de choisir 2 scènes. Donc je vais leur donner le script à chacun. Chacun va lire et il va choisir 2 scènes qu'il a envie d'illustrer. Donc voilà. Moi j'ai fait 2 images, 2 illustrations. Pour Le Nom de la Rose, hein, donc c'était ça le projet. Et donc il a fait un superbe portfolio qui a été distribué avant. Bon, c'est quelque chose de, c'est une stratégie, on va dire, de pré-production, mais c'était très malin et c'était très agréable pour nous. Mais en tout cas, il a eu la belle honnêteté de se servir de ses dessins dans sa mise en scène pour que chacun retrouve un plan au moment où qui mette en l'image qu'il a dessinée, qu'il la mette à l'écran. Ouais.
À ce jour, Enki Bilal, vous avez réalisé 4 longs-métrages. Bunker Palace Hotel en 1989, Taiko Moon en 1996, Immortel en 2004.
Ça fait 3.
Et Ciné Monstre.
Alors Ciné Monstre.
En 2006.
Oui, mais Ciné Monstre, c'est pas vraiment un film. J'aime bien qu'il y ait qu'on sache pas trop ce que c'est. C'est un montage des 3 films que vous venez de citer. Mais une espèce de compression, c'est réduit à 1h10 au lieu de 5h et des poussières. C'est une compression de ces 3 films, volontairement à la hache, hein, c'est un montage à la hache, brutal, avec volontairement des séquences où par exemple, dans le même plan, on peut avoir Charlotte Rampling, c'est une scène, Charlotte Rampling et Linda Hardy dans Immortel, et Charlotte Rampling commence en anglais, poursuit en italien, et puis finit en allemand, pour créer des aberrations qui gênent le spectateur pour l'empêcher de se dire je suis un vrai film. Mais malgré tout, ça se suit comme un objet d'expérience. Et ça, c'est Ciné-Monstres, je l'ai joué sur scène. Je veux dire, sur scène avec Goran Vesvoda, qui est un musicien, lui aussi, originaire des Balkans, c'est la Balkanic Connection. Et lui, il a improvisé des sons sur la projection de ce film. Et moi, j'intervenais aussi en VJing, c'est-à-dire que je modifiais les images qui étaient projetées. Donc voilà, c'était un peu du spectacle.
Mais ça en fait une œuvre quand même à part.
Totalement à part.
Alors, j'ai eu la chance de pouvoir vous observer travailler sur votre troisième long-métrage, Immortel, et ce qui se dégageait de vous au moment du tournage, c'était une incroyable sérénité. Ce n'est pas votre univers habituel, on peut supposer. Et on pouvait peut-être vous imaginer stressé. Or, c'est exactement le contraire qui se produisait.
Alors, j'étais peut-être sans doute plus stressé sur mon premier long métrage, avec en plus j'avais des monstres sacrés comme Jean-Louis Trintignant, comme Carole Bouquet, comme Jean-Pierre Léo. Enfin bon, bref. Mais en fin de compte, les choses se mettent assez vite en place. Et surtout, il y a un tel travail de préparation sur un film, que vous êtes tellement obligé de répondre à des milliers de questions, que le danger le plus grand, d'ailleurs, c'est d'arriver exsangue au moment de dire moteur, d'être complètement épuisé. En général, on est fatigué quand on dit moteur pour la première fois. Mais en mettant cette espèce de mitraillage comme ça de questions, puisque vous répondez à tout le monde, d'abord évidemment au producteur, puis ensuite vous répondez à votre chef-op, à votre chef décorateur, costumier, etc. Et puis les acteurs, et puis bon, bref. Et donc lorsque vous êtes sur place, sur scène, vous êtes prêt. Je crois que je prends ça comme ça. Et donc il y a une forme de vaut mieux être dans la sérénité que dans l'affrontement. Moi, je sais pas comment je suis sur un tournage, mais ce que je sais, et je le dis vraiment en toute franchise, c'est ce que me rapportent tous les gens qui ont travaillé avec moi, ils sont très très heureux de cette atmosphère, de ce calme, de cette harmonie. Voilà. Apparemment, j'aime bien qu'il y ait une harmonie sur un tournage. Je n'aime pas le conflit, et le conflit, je suis très mauvais quand il y a un conflit. Je me perds moi-même. Hein. Donc, c'est sans doute une façon d'imposer un style, un rythme, qui finalement est très agréable.
Quel spectateur de cinéma vous êtes aujourd'hui ?
Très difficile, mais en même temps, je garde une forme de naïveté quand je suis devant un film. J'en vois beaucoup de films, réellement. Hein. Je regarde énormément chez moi, dans une salle dédiée. Je pense que je me fais moi 20 films par mois. C'est pas mal. Alors maintenant on a des séries en plus, donc. Mais je sais m'abandonner. Je continue à être un très bon spectateur. J'espère le rester le plus longtemps possible, parce que c'est jamais bien d'être que dans l'analyse ou dans le jugement.
Et puis vous avez eu l'opportunité, le plaisir, j'imagine, d'être juré lors du dernier Festival de Cannes en 2019. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ?
Eh ben justement, ce que je dis là, j'étais à la fois un spectateur. Et c'est ce que nous avait demandé d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup apprécié Iñárritu, Alejandro Iñárritu, qui était le président du jury. Très grand réalisateur, je sais pas, souvenez-vous de Birdman par exemple, et puis Le Revenant, le dernier film incroyable avec DiCaprio lâché dans la nature après avoir été dévoré par un ours, enfin un truc sidérant. Très grand réalisateur, et il a été formidable parce qu'il nous a dit, le premier contact qu'on a eu ensemble de tous les membres du jury, il nous a dit: j'aimerais quand même qu'on soit des spectateurs avant tout, qu'on se prenne pas pour un jury, qu'on se prenne pas pour des juges, qu'on se prenne les films comme ça, et puis après il sera temps de voir ce qu'il en restait. Et ça, c'est quelque chose qui me convenait vraiment. J'ai été ça, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à voir tous ces films, beaucoup de plaisir à discuter, à débattre avec mes camarades de jeu, même si on n'était pas d'accord sur pas mal de choses, mais en tout cas on a je pense sorti un palmarès qui a de l'allure.
Alors sans dévoiler des secrets, la Palme d'Or a été remise à Parasite, et je crois que c'était unanime.
Absolument. Parasite, ce film coréen du réalisateur qui avait fait le transpersonnage, donc un film aussi très d'après une bande dessinée de Loeb et de Rochette. Hein. C'est déjà, on savait que c'était un grand réalisateur en devenir, et là il fait un film magistral qui a été, mais qui nous a soulagés, parce que c'est toujours délicat, plus les jours passent et plus les films défilent. À un moment, on a peur qu'il n'y en ait pas un qui s'impose. Parce que c'est toujours délicat, les affrontements, les débats, etc. Et là, on a été tous cueillis par ce film qui est, je veux dire, voilà, au mot fin, on s'est regardé. Moi, je l'ai pas vu avec le reste du jury, je l'ai vu le lendemain, parce que j'avais vu pas mal de films la veille, je me suis dit, je vais me garder quand même une forme de fraîcheur, et en fait, je me suis retrouvé avec Inarritu le lendemain, lui avait fait pareil, on s'est retrouvé dans notre box, on va dire, de juré, à le voir tous les deux, et quand on s'est regardé, là, on sentait que le public était pris, on s'est regardé, on s'est dit, on a tout de suite compris que c'était bon, et que les autres devait être aussi sur la même ligne, et c'était le cas, on les a vus juste après. C'était imparable. Et ça, c'est bien. Le reste, après, il y a eu beaucoup de films différents, de styles très, très différents, de tous les horizons. Voilà. Et on a sorti un palmarès qui est varié aussi, je pense, qui est bien. Moi, je n'ai pas forcément été satisfait de tout, mais en tout cas, j'ai un tel respect pour la création que, voilà, l'histoire de goût, après, c'est une affaire personnelle et c'est pas bien grave.
Enki Bilal, vous avez aussi mis en scène au théâtre Suspection de Fabienne Renaud, écrit les costumes et le décor de Roméo et Juliette pour Angelin Préliocage.
Le théâtre, c'était un texte qui a été réadapté pour le théâtre avec Evelyne Bouix sur scène et Jean-Louis Trintignant que j'avais filmé, dont j'avais filmé le bas du visage qui était projeté sur un écran. C'est une forme d'interrogatoire très violent, mais en même temps pour des choses très anodines de la vie. Donc ça crée un décalage. Angelin Préliocage, donc c'est Roméo et Juliette. Ça, c'est décor et costume d'un ballet. Moi, j'étais pas du tout un grand spécialiste de chorégraphie et de ballet. Et là, j'ai assisté à la création, évidemment, du spectacle. Ça a été un tournant assez important aussi par rapport au corps. Le corps était pour moi déjà un sujet important dans la peinture. Je savais que c'était ça le sujet qui m'intéressait. C'était les corps. Et de voir des danseurs dans leur travail sur le corps, je trouvais ça, c'était quelque chose qui a compté. Donc toutes ces expériences sont là aussi pour m'enrichir. Je m'en rends pas compte, mais elles me changent, elles me modifient. Et chaque fois que je reprends des pinceaux ou des crayons pour faire une bande dessinée, je suis transformé par ce que j'ai vécu avant. J'en ai la conscience. Ouais.
Si on est attentif, vos personnages sont très sensibles à la poésie. C'est le cas de Nico Polper, qui cite les litanies de Satan de Charles Baudelaire. Quel rapport personnel vous entretenez à la poésie et à Baudelaire, évidemment?
Alors, mes personnages sont sensibles, c'est parce que l'auteur est sensible, forcément. Et c'est un hommage. Je pense que j'ai ce souvenir-là de les émois lorsqu'on apprend une langue. Il y a eu sans doute des moments difficiles qui était lié à la grammaire, à des tas de choses comme ça qu'il faut apprendre. Mais je me souviens de première fois que quand j'ai lu certains des poèmes de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, que là il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti quelque chose de très particulier, de l'ordre du frisson, un truc un peu étrange. Je comprenais pas. Quand je découvre, évidemment, quand on découvre une charogne, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Et d'autres poèmes, c'est devenu à partir de ce moment-là une forme de livre de chevet. Et donc, ça m'est apparu tout à fait naturel d'intégrer ça dans la bouche de mes personnages. Surtout que c'est créé, de toute façon, il y a une adéquation entre, évidemment, le poème et ce que vivent mes personnages. Il y a un album où il est truffé de citations volontairement, c'est Animals. Alors, Animals, mais c'est toujours, évidemment, en fonction des personnages, parce que c'est assez complexe à expliquer, et ceux qui n'ont pas compris croyaient que je voulais étaler ma culture, ce qui est tout à fait absurde. En fin de compte, c'est la planète elle-même qui faisait ressortir par la bouche des personnages qu'elle mettait à l'épreuve la mémoire culturelle du monde. C'est un peu ça l'idée.
J'aimerais bien qu'à la manière d'une masterclass, vous me décriviez comment vous avez imaginé, scénarisé, puis dessiné une planche que personnellement j'aime beaucoup. On est dans Animal Z, Animals. Vos héros sont des êtres humains accueillis par une communauté d'ours polaires qui les reçoivent debout sur leurs pattes arrière et qui ne sont pas forcément menaçants comme cet ours que l'on a entre nous deux, un ours sculpté.
Bon, c'est une séquence plutôt qu'une planche parce que ces images sont faites à part, hein. Donc après je fais le montage, mais en tout cas c'est une séquence importante. Ça veut dire entre autres choses, hein, que le monde des animaux n'est pas rancunier. Cette planète qui se recompose, ces hommes qui ont failli puisqu'ils ont maltraité la planète, donc la planète se révolte pour ça. Donc ceux qui sont là, qui ont survécu et qui sont en train de vivre ce moment de survie où ils essayent d'atteindre un point où, semble-t-il, il y a la vie peut reprendre. Donc ils sont confrontés à la violence des hommes, de certains des survivants, comme dans un western, hein, et aussi au monde animal qui, lui, perdure, a survécu. Et donc les ours sont là un peu, les baleines aussi. Et donc ce monde animal a une forme de sérénité, de résilience. Il y a quelque chose de... Les animaux ne nous en veulent pas d'avoir été ce que nous avons été vis-à-vis de la planète et vis-à-vis d'eux. Et donc, il y a quelque chose d'assez apaisé, d'assez... C'est une fable. On a l'impression que ces ours sont bienveillants et ils le sont parce que dans la réalité, ça se passerait différemment. Hein, une confrontation entre hommes et ours blanc. Il n'y a pas d'affrontement. Et le seul affrontement qu'il y a, là encore, c'est un duel westernien absolu, c'est entre les hommes. En gros, c'est une scène qui accuse les faillites humaines et qui grandit les animaux qui sont pour moi déjà assez grands, puisqu'ils nous supportent et qu'on les a trahis.
Enfin, dans Froid Équateur, le troisième tome de la trilogie Nicopol fait état d'un sport, le chessboxing. Deux adversaires s'affrontent sur le ring, à la fois aux échecs, puis en boxant. D'où vous est venue cette idée d'inventer ce sport-là, puisque vous avez inventé un sport qui aujourd'hui vit à travers des compétitions officielles?
Alors, absolument, c'était pas le but, hein, mais je suis très heureux de ce dénouement. Non, c'était Froid Équateur, donc c'était, comme l'indique le titre, c'est un oxymore, donc c'est une société... En plein centre de l'Afrique, mais qui était très évolué, très obsédé par la perfection, par la finance, par et puis dans cette perfection, tout était jaugé sur des échelles, alors, genre échelle de Richter pour ce qui est des tremblements de terre. Donc c'était, il y avait des échelles dans tous les domaines. Il y en avait une qui s'appelait Preljokaj, clin d'œil à mon ami chorégraphe, qui était sans doute l'échelle de l'élégance, par exemple, ou de la souplesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout était jaugé, et il me fallait un sport qui soit représentatif de cet état d'esprit absolument élitiste, mais à un point presque fascisant. Et alors donc, qui mettrait mon personnage principal, et puis il y a Horus aussi, en confrontation avec le champion de cet endroit, de cette ville, Equator City. Je me dis, voilà, quelque chose d'un peu hybride, d'un peu bizarre. Alors très naturellement, ça c'est, je ne sais pas comment ça vient, l'idée, mais je me suis dit, échec, c'est un sport intellectuel, pour moi c'est vraiment un sport. C'est d'une grande violence, hein, les jeux d'échecs, hein, ça nécessite une forte solidité mentale, des capacités de mémoire, des stratégies, etc. Bon, physiquement, faut être quand même en bon état pour jouer aux échecs à haut niveau. Et puis, tout naturellement, là aussi, j'ai de la boxe, je pense au noble art. Je me dis que c'est vrai que c'est pas qu'un truc de brut, mais c'est de la technicité, là aussi. Et je me dis, ça va être comme ça sur un ring, on va passer de l'un à l'autre, et puis voilà, c'est tout de suite l'image apparaît, avec un échiquier au milieu du ring, les deux personnages qui jouent. Au bout d'un moment, un coup de gong, on enlève la table et ils s'affrontent à la boxe, et puis on revient aux échecs et ainsi de suite. Moi, ça s'arrête là. Ça finit dans le sang, absolument. Enfin, c'est horrible. C'est presque du grand guignol. Mais en tout cas, le truc est là. Il existe dans l'album. Et 10 ans plus tard, je reçois un mail d'un artiste, jeune artiste néerlandais que je ne connaissais pas, mais qui est apparemment, je me suis renseigné évidemment, faisait des installations, faisait des choses comme ça assez audacieuses, et qui me dit, écoutez, je viens de découvrir, mon père m'a fait découvrir votre album Froid Équateur, cette idée de chessboxing, je trouve ça absolument génial, j'ai envie de en faire une démonstration à Amsterdam. Moi-même, je joue aux échecs et je me suis mis à la boxe. Bon. Alors, je prends ça un peu... Alors, c'était le tournage de Immortel. Donc, j'ai un peu négligé ma réponse à cet artiste. Et puis, voilà. Donc, le temps est passé. Des années sont passées. Et puis, un jour, on me dit, mais il y a... Ce sport prend de l'ampleur. Il y a apparemment des combats, etc. Et Antoine Decaune m'embarque un jour. On se connaissait peu, mais il me dit, voilà, je fais un reportage sur Berlin et j'aimerais faire une surprise, te faire une surprise. Et là, je comprends, parce que j'avais entendu parler de Hyper Hubing, donc cet artiste, je savais qu'il s'était installé à Berlin, et je sais pas pourquoi je me dis, ça doit être forcément pour le chess boxing, et c'est le cas. Donc je rencontre Hyper Hubing à Berlin, très belle rencontre, et il nous fait visiter la Fédération Internationale de Chess Boxing, où il y a une quinzaine d'athlètes, dont une femme, une fille, qui s'entraîne. Alors, saut à la corde, punching ball, enfin, ça sent le phoque, hein, ça sent la transpiration, c'est des vrais sportifs. Et puis, en même temps, entraînement aux échecs, mais le blitz, c'est-à-dire le jeu accéléré très rapide, tac, 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 avec l'horloge et tout. Et puis, on assiste à un moment donné à un vrai combat, et là, je me rends compte que ça a effectivement une certaine allure. Et puis ensuite, on a fait une démonstration chez Arcurial à Paris. Et là, de nouveau, c'était des athlètes très confirmés dans les deux domaines. Et maintenant, il y a des championnats du monde, il y a des fédérations un peu partout dans le monde. Évidemment, tous les pays de l'Est, ex-pays de l'Est, ça cartonne là-bas. À Londres, ça marche très très fort. Aux États-Unis, en Australie, en Iran, en Inde, en Turquie, enfin bon, bref. Et enfin, il y a une super fédération qui vient de se former et qui a organisé, il y a 2 mois à peine, au Cabaret Sauvage à Paris, une démonstration avec 3 combats de très haut niveau avec un champion français, un jeune Cazeneuve, un champion qui vient de confirmer en Turquie. Et là, on a affaire vraiment à du très haut niveau. Et les gens sont, parce qu'ils se rendent compte que parfois l'un des deux est meilleur aux échecs, et donc est-ce qu'il va tenir le round suivant en boxe pour pouvoir mettre échec et mat au coup d'après, et l'autre il sait qu'il faut qu'il... Bon bref, c'est très 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 très... Il y a un vrai suspense.
Ce sont sur ces mots que nous allons nous séparer, Enki Bilal. Merci beaucoup d'avoir passé toute cette semaine avec nous sur France Culture.
Ça fut un plaisir, merci.
De cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Enki Bilal. À voix nue, réalisation Assia Khalid, prise de son Marcos Daras, Julien Girard, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer.